Études sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus.
Bonsoir à vous tous, bienvenue à l'heure de cette émission Études sur Cantique. Nous sommes encore présents dans ce studio. Comme vous le savez, chaque dimanche à cette même heure, nous faisons le choix d'un cantique spirituel et nous le jouons d'abord et ensuite nous essayons de le comprendre au travers des Saintes Écritures. Nous répondons encore présents cet après-midi à l'heure de cette émission sur cette fréquence et vous êtes nombreux à nous écouter. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de cette édition de ce nouveau numéro d'études sur cantique. Nous allons étudier un cantique, nous allons remonter dans le temps pour étudier un cantique, c'est en anglais. Et le cantique, je vous le joue et vous allez apprécier et vous saurez que cela remonte dans le temps. Écoutez le chant. L'autre Laurent, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Alors, le cantique que nous allons étudier, tu viens de l'écouter. Est-ce que tu connais ce cantique-là? Tu connais ce chant-là?
Oui, bien sûr.
Ça te rappelle quoi?
Disons, pour moi personnellement, c'est des années 89 plus.
Oui.
Parce que j'étais converti en 89. Voilà. C'est là où j'ai commencé par l'écouter. Mmh. Mais pour les plus anciens, c'est déjà dès les années 70 et 80.
Ah, ça, ça remonte à ce temps-là.
Ah, oui, bien sûr. Cantique. Que le frère Lazarus.
Ouais.
Et le frère Emmanuel. Bon, à l'époque, on les avait bro Lazarus et bro Emmanuel. Voilà, c'était les deux.
C'était les deux qui
voilà,
ont chanté.
Voilà, que l'on écoutait. Ils font partie du groupe qu'on appelle Voice of the Cross.
Ouais.
D'accord?
Ouais.
Lazarus lui est devenu apôtre. Lazarus Chukwuma.
Il est devenu
apôtre.
Apôtre.
Okay. Emmanuel Ogbonna, lui, il est pasteur. Oh. Donc, c'est les deux qui ont, le duo là, qui a composé une série de chansons qui, si tu es né de nouveau dans
cette époque,
cette chanson ne te laissera pas
indifférent.
Voilà.
Oui,
donc,
ça, c'est vrai.
Ils ont continué, ils ont fait sortir des albums comme Sing Alleluia, Joy of Salvation, Thank You for Saving Me, Satan is in Trouble, Good Morning Jesus. Et après, ils ont émigré aux États-Unis.
Ah.
Ils ont vécu, oui, bien sûr.
Ils ont vécu aux États-Unis.
Oui, et là, ils ont fait sortir Gospel High Life, volume 1 et 2. Après, Lazarus est revenu.
Au Nigeria.
Oui, il est revenu dans sa ville natale, à Makohia, dans l'état d'Imo. C'était à l'occasion des décès de son père. Son père était décédé à l'âge de 102 ans. Donc, il était venu pour les obstacles.
Les obstacles, autant pour moi. 102 ans.
Oui, bien sûr.
Wow.
Donc, après, il a jugé bon de rester. Donc, lui n'est plus remonté aux États-Unis. Donc, il est resté. Son second Emmanuel, lui, il est resté aux États-Unis. De temps en temps, il vient. Donc, quand il vient, ils se mettent ensemble. Mais bon, comme ils sont plus physiquement ensemble, c'est le fils de Lazarus.
Il est resté aux États-Unis.
Non, le fils de Lazarus
qui
joue maintenant la partition de Emmanuel.
Ah d'accord, avec son père.
Voilà.
Avec son père actuellement au Nigeria.
Il continue.
Okay.
Il continue.
D'accord.
Et la question a été posée leur demandant mais comment vous avez fait l'inspiration tout ça. Il dit c'est tout simplement Dieu. Lorsque Dieu souffle dans votre cœur, vous ne pouvez pas vous empêcher d'écrire ou d'enregistrer ce qu'il vous donne. C'est ainsi que j'obtiens les chansons. Parfois, les paroles viennent en premier, ensuite la mélodie. D'autres fois, c'est la mélodie qui vient en premier, puis les paroles. Mais avant que vous ne le sachiez, bon, cela devient une chanson que tout le monde chante. Alors, maintenant, qu'en est-il de la vision? Il dit que la vision qui a donné naissance à Voice of the Cross reste telle qu'elle. Quelle est cette vision? C'est atteindre les âmes avec des chansons qui peuvent les libérer et élever leur esprit lorsqu'ils écoutent les chansons. Donc ça, c'était leur vision. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il peut dire à la jeune génération? Il dit, je leur conseille de connaître leur vocation et de garder le cap. Soyez très biblique dans votre caractère et dans tout ce que vous faites.
Wow.
Voilà, donc c'est ce que...
Soyez très biblique dans votre caractère et dans tout ce que vous faites.
Oh là là. Vous allez voir que quand ces chansons-là, quand on la joue, ça a toujours de l'impact. Parce que c'est né de l'esprit. Ce qui vient de l'esprit perdure.
Très bien. Ok. Merci pour tous ces renseignements pris sur... ça, c'est sur le frère Lazarus. Le frère Lazarus.
Ouais.
Et on va encore répéter le chant. The Fountain of Life.
Is flowing everywhere. Whosoever drink shall never ever thirst.
Dis-nous, hein, quelles sont les paroles de cette chanson? C'est très simple, hein, j'ai l'impression que, au fait, c'est composé d'un seul couplet. Mais quelles sont les paroles du chant?
D'accord, là, la chanson est située de, comme suit. « The fountain of life is flowing everywhere. Whosoever drinks shall never ever thirst again. » The fountain of life is flowing everywhere. Whosoever drinks shall never ever thirst again. The fountain of life is flowing everywhere. Whosoever drinks shall never ever thirst again. The river of life is flowing everywhere, and whosoever will drink shall never ever thirst again. The fountain of life is flowing everywhere. Whosoever drinks shall never ever thirst again. Là, on peut rendre comme ceci, hein. On peut dire la fontaine ou bien le fleuve ou la source de vie coule partout. Quiconque en boit ou boit de son eau n'aura plus soif. D'accord? Donc la fontaine, le fleuve ou la source de vie coule partout. Quiconque boit de cette eau n'aura plus jamais soif. La fontaine, le fleuve, la source de vie coule partout. Quiconque boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Le fleuve, hein, parce que the river en anglais est soit le fleuve ou la rivière. Le fleuve, quand ça débouche sur l'océan. Dans ce moment, en français, on ne le rend pas fleuve. Maintenant, si c'est un affluent, là, ce sera la rivière que nous connaissons. Donc, la rivière, le fleuve, la source de vie coule partout. Quiconque boit de cette eau n'aura plus jamais soif. La fontaine, la rivière, le fleuve, la source de vie coule partout. Quiconque boit de son eau n'aura plus jamais soif.
Mais ça, la chanson ne tient qu'à une phrase, hein.
Et bien sûr.
C'est juste
bien
une
sûr.
Phrase.
Ah ouais.
Et avec cette seule phrase-là, un chant a été composé. Alors, l'autre Laurent. Mais on va essayer de comprendre. Hein. Sincèrement, je l'ai écouté. Comme tu l'as dit à ma conversion. Mais je n'ai jamais eu cette occasion de comprendre qu'est-ce qui est dit à fond. Et ça sera l'occasion pour nous en cet après-midi de pouvoir cerner par les Écritures le message qui est véhiculé par cette chanson. Alors, de quoi est-il question dans la chanson?
Bien, la chanson, là, d'après le contexte, d'abord, c'est tiré de Jean chapitre 7.
Jean chapitre,
chapitre 7.
Très bien.
Bien, le contexte c'est quoi? Jésus était allé à la fête des tabernacles.
Mm-hmm.
Et dans le déroulé du rituel, à un moment donné dans la semaine, le sacrificateur apporte chaque jour, ils font une procession, le sacrificateur apporte au temple un récipient d'eau qui est puisé dans la piscine de Siloé. Et il va venir verser l'eau sur l'autel en souvenir de l'eau que Dieu leur a donnée dans le désert. C'était un rappel pour le peuple. Il le fait premier jour, deuxième jour, jusqu'au septième jour. Le huitième jour, il ne fera plus rien, puisque maintenant, ça veut dire qu'ils sont maintenant sur la terre promise. Donc, l'eau est déjà là, donc ils sont sur la terre promise. Ah, donc, c'est ce huitième jour-là, le dernier jour de la fête, que le Seigneur maintenant a parlé. Et il était en train de rappeler au peuple qui est entré en possession du pays, écoutez, l'eau là, l'eau que vous avez eue au désert, et qui s'est arrêtée maintenant parce que vous êtes actuellement sur la terre promise, Christ maintenant invite tous les hommes à venir à lui. Quand les hommes viennent à lui, lui leur donne de l'eau, qui est l'esprit. D'accord? Et c'est lui maintenant qui donne une eau qu'il n'avait pas avant.
Ok.
Ah, le contexte se rapproche à ce qu'il a dit à la femme samaritaine. L'eau dont il parle là, c'est sa vie, la vie de Christ, l'esprit de Christ qui vient dans l'homme. Mais n'oubliez pas que l'esprit ne saura être donné si Christ n'a pas versé son sang. D'accord? Donc Jean chapitre 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'eau que le sacrificateur versait sur l'autel, on ne buvait pas. Il versait ça comme un mémorial, souvenir de ce qui s'est passé dans le désert. Mais Jésus est en train de leur proposer maintenant. Vous avez soif de Dieu, venez.
Au fait, c'était ça. Hein. Mm-hmm. En faisant le rappel, c'était pour dire nous avons besoin de Dieu.
Mm-hmm.
C'est ça. Maintenant,
ouais.
Jésus les invite.
Ouais.
Hein, le huitième jour, puisqu'il n'y a plus cette cérémonie-là qui doit être faite, il leur dit maintenant venez à moi, vous qui avez soif. Si je comprends.
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Après que cet individu ait bu de l'eau, tu as juste besoin d'une gorgée. Quand tu bois, ça va devenir maintenant des fleuves. On va expliquer ça un peu plus loin dans l'étude. Et comme dit l'Écriture, il dit cela de l'esprit. De l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc c'est ce que l'Écriture nous rapporte. Voilà pourquoi quand les apôtres ont commencé par prêcher, ils mettaient l'accent sur la repentance, le pardon des péchés, et ils parlaient de la réception du Saint-Esprit. Tu vois un peu? Et l'apôtre Pierre va en parler dans Actes chapitre 2, verset 33, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu. L'apôtre Paul à Éphèse va demander à des disciples qu'il a rencontrés, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?
Ça veut dire que quand on croit, on doit recevoir le Saint-Esprit.
Voilà. Est-ce qu'ils ont reçu du nom? Et il était étonné. Ah bon? Vous avez reçu quel baptême? Le baptême de Jean. Jean-Baptiste. Tu vois un peu? Parce que lui, son message, c'était, il pointait les gens vers Christ. Il leur montrait Christ. Son ministère s'est arrêté là-bas. Maintenant, sous la nouvelle alliance, il faut recevoir le Christ glorifié quand il vient par son esprit résider en toi maintenant. Là, le fleuve d'eau vive commence pas à couler. Donc là, après, il a aidé ces 12 disciples-là, et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc, mes frères et sœurs, quelle que soit l'église à laquelle vous appartenez, si vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu, vous avez été purifié par le sang de l'agneau, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Si vous ne l'êtes pas, vous vous trichez vous-même. Parce que la vie chrétienne est une vie spirituelle et dynamique. Sans le Saint-Esprit, Vous allez juste être dans la foule. Quelque temps après, vous allez rétrograder allègrement. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que c'est avec lui maintenant que vous apprenez à connaître qui est Jésus. Qui est le Père. C'est avec lui que vous arrivez à connaître la parole. À savoir les promesses que le Père a faites. quelles sont les conditions? Comment cela se traduit dans les faits? Quand on te parle du ciel, on parle de l'enlèvement, on parle de tout ça là. C'est le Saint-Esprit qui joue le rôle d'instructeur. Donc si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous serez juste un religieux. Après un temps, vous serez fatigué, vous allez rétrograder.
D'accord, c'est compris. Mais on va aller beaucoup plus en profondeur, comme tu l'as dit tantôt. Mais on va réécouter le chant jusqu'à un certain niveau pour passer aux commentaires. Écoutez bel et bien l'émission Études du Cantique et nous sommes en train d'étudier le cantique des Fountain of Life, ou bien la fontaine de vie. Et nous allons essayer maintenant de disséquer cette phrase de la chanson « La fontaine de vie coule partout, quiconque en boit ou bien quiconque boit n'aura plus jamais soif ». Alors, l'autre Laurent. Je veux vraiment comprendre, je l'ai dit tantôt, je l'ai écouté au début de ma conversion. À l'époque, il n'y avait même pas encore la radio, et c'était autant de cassettes là, on joue avec les cassettes, et puis quand tu l'écoutes, la chanson te fait du bien. Mais on veut comprendre, que symbolise la fontaine de vie? Que représente ce symbole-là? La fontaine de vie, là, c'est quoi en fait?
La fontaine de vie dont il est en train de parler... Et n'oubliez pas, on est là dans un contexte où l'eau est utilisée comme élément d'enseignement. D'accord?
Oui.
Quand vous lisez les évangiles, quand Jésus est dans un environnement où il y a de l'eau, ses paraboles vont porter sur l'eau. Quand il est dans une zone où l'activité prédominante est la culture, l'agriculture, vous allez voir qu'il va parler de champs. Parce que Jésus, c'est un grand pédagogue, un grand enseignant. D'accord? Donc ici, il est en train de parler de la vie de l'esprit, quand l'esprit vient. Parce que tu vois, l'eau, on dit souvent l'eau, c'est la vie, n'est-ce pas?
Oui.
L'eau est indispensable à notre vie. Nous sommes à plus de 70% composés de liquide, en tant que corps physique. Donc c'est vraiment indispensable pour l'homme, tout comme l'air que nous respirons. Et par exemple, quand les scientifiques font leurs recherches, quand ils recherchent de nouvelles planètes, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent la présence de l'eau. Parce que s'il y a de l'eau sur cette planète-là, ça veut dire qu'il y a une vie
sur la planète.
D'accord? Oui. Donc, l'eau est vraiment fondamentale. Donc, dans ce cas de figure, là, le test nous explique. Le texte nous dit maintenant qu'il parle de l'esprit. Pourquoi? Parce que au moment où il parlait, Jésus ne pouvait qu'être en un seul endroit. Il n'est pas encore le Christ glorifié. D'accord? Mais il parle de ce que le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, nous apporte. L'Esprit. Parce que notre vie, la vie nouvelle là, est déclenchée par l'Esprit. C'est pourquoi il parlera à Nicodème de nouvelle naissance. À la femme samaritaine, samaritaine là au bord du puits, oui. Il va parler de l'eau que je donne va devenir une source d'eau vive. Mmh. Il est en train de parler de l'Esprit. Parce que nous avons tous en partage la vie naturelle. La vie de l'ancienne création. Donc il parle de l'Esprit. Et quand il retourne dans Genèse, on parlera d'un fleuve qui sort d'Éden et qui se divise en plusieurs branches. Ça parle quoi de, c'est le symbole de la bénédiction que Dieu donne. Mais ici, quand vous continuez votre étude de la parole, vous verrez que dans le livre de l'Apocalypse, on va parler aussi de fleuves qui sortent de sous le trône de Dieu. D'accord? Donc il est question de l'Esprit ici. Des gens ont fait des recherches. Quand vous, Ancien Testament, vous allez voir le roi Ézéchias, le peuple d'Israël avait besoin de l'eau qui venait de Gihon. D'accord? Qui venait dans la ville. Donc quand les Assyriens sont venus, ils ont bouché la source. Comme ça, les gens seront assoiffés et ils seront obligés de sortir de la ville. Tu vois un peu? Donc quand ils ont fait ça, le roi Ézéchias, alors une idée lui est venue, il dit, ah, il faut maintenant percer un aqueduc souterrain dans le rocher depuis la source. On est dans la ville ici, mais on va creuser en profondeur jusqu'à aller toucher cette source-là pour qu'on le vienne. Et pour faire cet exercice-là, il a pris deux équipes. Il y a quelqu'un qui commence de ce bout, l'autre qui commence de ce bout. Et finalement, quand ils l'ont fait, mais ils ont réussi. Et un tunnel a été découvert, a été creusé, et ça a alimenté la ville, ce qui a fait que de l'extérieur, l'ennemi attendait que les gens meurent de soif ici, et qu'après maintenant ils sortent pour qu'on puisse les attraper, mais ça n'a pas pu avoir lieu. Les découvertes archéologiques ont prouvé que ce qu'ils ont pu creuser a une longueur de 533 mètres de largeur, de longueur et puis 0,80 mètres de largeur. La hauteur, c'est entre 1,80 et 3 mètres. Et donc, ça a pu alimenter la ville. Mmh. Tu vois un peu? Donc, c'est dans ce contexte-là, quand on parle d'Israël et autres, parce que c'est une zone semi-désertique. Donc là, vous comprenez l'importance de l'eau. Maintenant, pour nous, sous la Nouvelle Alliance, ça parle de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, plus tard, va enseigner les Romains en leur disant, Romains 8, verset 9, pour vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Cette parole-là ne veut pas dire qu'on est en train de condamner les gens, mais c'est une réalité. Un homme naturel, un homme qui vient au monde, qui n'est pas converti, il n'a pas l'Esprit de Christ en lui. Il n'a que son esprit humain à lui. Mais il n'appartient pas au royaume, parce que ça c'est la première naissance. C'est quand il naît de nouveau que l'Esprit de Dieu vient résider maintenant. C'est cette eau-là. Donc comme l'Esprit n'est pas divisible, quand l'Esprit vient entrer dans la personne, prend possession de son esprit humain maintenant, c'est là où, quand la personne lui permet maintenant, ça devient une source d'eau qui va devenir des fleuves. Je vais expliquer ça un peu plus loin. Donc il s'agit de l'Esprit que reçoivent, l'Esprit de Christ que reçoivent ceux qui croient en Jésus.
D'accord. Donc la fontaine de vie signifie Esprit que reçoit celui qui croit en Jésus.
En Jésus.
Très bien. Mmh. Maintenant, pourquoi dit-il alors que cette fontaine-là coule partout?
Ok. La fontaine coule partout parce que dès que Christ a été à la croix, il a versé son sang, il est mort pour nous. Quand il est ressuscité, il est devenu un esprit vivifiant. D'accord? Ce qui fait que il peut se multiplier à l'infini.
C'est-à-dire?
Partout où vous êtes, où vous recevez Jésus, c'est le même Jésus que vous recevez.
Ok.
Donc l'Esprit de Christ vient dans chaque personne qui croit en Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15, l'apôtre Paul a fait une analogie. Il parlait du voile que Moïse avait sur son visage. Et il expliquait les implications spirituelles. Il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, quand on lit l'Ancien Testament, celui qui lit l'Ancien Testament sans être converti, un voile est jeté sur le cœur de cette personne. D'accord? Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, C'est qui le Seigneur à qui on se convertit? C'est Jésus. D'accord? Lorsque quelqu'un naît de nouveau, en mettant sa foi en Jésus, l'apôtre Paul dit, le voile est ôté. Ça veut dire que la personne a la capacité d'avoir une communion intime avec le Seigneur. La personne peut voir. Il n'est plus aveugle spirituellement. La personne peut sentir, peut toucher. Ça dit que ses sens spirituels sont activés. C'est de cela qu'il était question quand Jésus a dit à Nicodème, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne verrez pas le royaume. Le royaume est une réalité. Mais elle est un mystère pour celui qui n'est pas né de l'esprit. D'accord? Donc ici maintenant il dit, oh, le Seigneur c'est l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la capacité d'accéder au lieu très saint, d'aller vers le Père en esprit. Donc c'est à travers la nouvelle naissance que l'esprit de Christ nous est octroyé. La Bible l'appelle encore l'esprit de Dieu, l'esprit d'adoption. Donc quand cela nous est octroyé, ça nous permet maintenant d'entrer en communion. Parce que le Christ est devenu un esprit vivifiant. Dans 1 Corinthiens 15, 45, il a dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Lorsque Dieu a soufflé dans la motte de terre là qu'il avait faite. D'accord? Adam est devenu une âme vivante, il est devenu un être humain. D'accord? Une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
Ah, il est question de Jésus.
De Jésus. Il donne la vie, il donne son esprit. Il se donne. Donc il est dans chaque personne qui croit en lui. Il vient résider dans la personne par le Saint-Esprit.
Ok.
D'accord? Ah, donc c'est pour cela que dans 1 Jean chapitre 5, là on va dire verset 6, c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Donc, il est venu avec cette eau-là, l'esprit qu'il donne. Mais pour que cela soit possible, il faut que ce soit à travers le sang. Donc, vous ne pouvez pas être baptisé du Saint-Esprit sans être né de nouveau. Est-ce que c'est clair? Donc c'est après la nouvelle naissance, c'est après l'œuvre de sacrifice là qu'il a accompli que l'esprit est donné. Donc le sang expiatoire est venu avant l'esprit. De la même façon, il faut que la personne reçoive Christ avant d'être baptisée du Saint-Esprit. Un païen ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Si quelqu'un veut recevoir l'esprit, la personne doit sortir du monde à travers la repentance et la foi en Jésus-Christ. À partir de ce moment maintenant, la personne est candidate pour recevoir l'esprit d'adoption, l'esprit de Dieu.
Très bien. Je veux en même temps dans cette foulée-là poser la question de savoir la question suivante. Où coule cette fontaine? Où coule-t-elle?
Ok.
Parce que là, tu l'as expliqué, c'est clair, mais où coule-t-elle maintenant?
Ça coule de depuis le ciel.
Waouh! Ça vient du ciel.
Oui, oui, bien sûr.
Ça vient.
C'est pour cela que l'Écriture te dit que ça coule de dessous le trône de vie, le trône de Dieu et de l'agneau. D'accord? Ça coule de là, ça vient dans notre monde. Donc, quand quelqu'un écoute, c'est pour cela que je ne cesserai jamais de le dire. Aucun serviteur de Dieu n'a reçu de Dieu le droit de prêcher l'évangile de prospérité. Parce que ça remet en cause l'œuvre de Christ. C'est l'évangile du royaume qu'on prêche aux gens. Parce que quand on prêche l'évangile du royaume qui met l'accent sur ce que Christ a fait pour nous à la croix, lorsque quelqu'un croit en cette œuvre, le Saint-Esprit maintenant qui est dans le monde, maintenant déclenche la nouvelle naissance dans l'individu. Mais quand on prêche une fausse doctrine, la personne ne naîtra pas de nouveau. Tu me comprends? Ouais, ah, donc l'eau la coule depuis là-bas, ça rentre dans la personne. C'est l'Esprit. Quand l'Esprit vient maintenant, j'ai la responsabilité d'entretenir une communion avec l'Esprit. Et ça devient maintenant des fleuves d'eau vive. Je te donne l'image d'un barrage. Tu vois, le barrage, c'est une sorte de retenue d'eau.
Oui.
De ce côté, c'est comme un lac qui est là, qui est retenu. Maintenant, quand l'eau maintenant descend dans les turbines et autres là, vous allez voir que de ce côté-ci, c'est plusieurs branches qui sortent. De ce côté, l'eau est là. De ce côté-ci, c'est-à-dire dans la partie out, sortie, dans la sortie, ça se manifeste en plusieurs branches. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui réside dans la personne se manifeste de plusieurs manières. Par exemple, tu rencontres quelqu'un qui est endeuillé. Quelqu'un est dans le deuil. Et quand tu arrives là-bas, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire pour consoler cette personne. Tu ne sais pas. Mais si tu t'appuies sur l'Esprit, l'Esprit inspirera ce que tu diras. Ça va rendre ministère à l'Esprit de cette personne. C'est le même Esprit qui est là. Mais dans ce cas de figure, il va consoler. C'est le même Esprit qui est en toi. Tu rencontres quelqu'un qui est malade. Quand tu pries, c'est le même Esprit qui sera activé, qui va activer la foi dans la personne et lui donner la guérison. Donc, tu vois que tout dépend de l'Esprit qui réside en nous. Voilà pourquoi quand quelqu'un, dans son ministère, veut faire croire que c'est lui, il détient l'Esprit et il distribue comme il veut. Ça, c'est un faux enseignant. Nous sommes au service de l'Esprit de Dieu. De la même façon, vous allez voir les gens qui prophétisent là, qui disent « Je suis prophète » et qui t'appellent pour prophétiser sur toi. Non, la prophétie ne vient pas de la volonté de celui en qui réside l'Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Tu ne peux pas lui donner des ordres. Tu es à son service, c'est lui qui décide ce qu'il veut faire. Jésus est allé à la piscine de Bethesda, n'est-ce pas?
Oui.
Il y a plusieurs malades là-bas, non?
Oui.
Il a guéri combien? Une seule personne.
Oui.
Pourquoi? Parce que c'est ce que le Père veut. Et Jésus était soumis au Père. Donc, il y aura des moments où il ne peut avoir qu'un seul. C'est lui qui décide. Mais tu ne peux pas lui dire, je veux que tu guérisses les gens. Toi, tu es qui? Tu es juste une créature. Donc, tu ne peux pas dire, ok, je vois cet homme-là, je prophétise sur toi. Non, tu n'as pas prophétisé. Tu as conjugué le verbe prophétiser à la première personne du singulier, à l'indicatif actif. Dieu ne va pas écouter parce que c'est lui qui te dira, parle-lui. Quand il te dit, parle-lui, en soi, quand tu parles, tu ne fais que répéter ce que Dieu t'a dit. Mais tu ne peux pas de toi-même prophétiser sur quelqu'un pour que... Ça, c'est si tu veux exercer ta foi. Mais Dieu est souverain. Il peut te laisser faire tes phrases-là, rien ne va se produire. Donc, si on comprend le mécanisme de la manifestation de l'Esprit en nous, nous, là, nous qui sommes les réceptacles, nous en qui réside l'Esprit, nous nous soumettons à l'Esprit. Et l'Esprit nous utilise. Ce n'est pas nous qui utilisons l'Esprit de Dieu. Donc, ça coule partout. Ça vient de plus... Il va dire à la femme que ça va rentrer jusque dans la vie éternelle. Donc, la source est dans le royaume et ça ramène à la base. Donc, quand Jésus rentre dans une vie, transforme cette vie, cette eau-là t'amènera plus tard à entrer dans le royaume où ta vie sera la vie de quelqu'un qui est pleinement sauvé. Donc, si on comprend la chose de cette façon, Christ a été glorifié, il est devenu un esprit vivifiant. C'est pour cela que partout où on parle de lui, quand quelqu'un croit en lui, la personne reçoit l'esprit.
The fountain of life is flowing everywhere. Whosoever drinks shall never ever thirst again. The fountain of life is flowing everywhere. Whosoever drinks shall never ever thirst again. The fountain of life is flowing everywhere. Whosoever drinks shall never ever thirst again. The fountain of life is flowing everywhere. Whosoever drinks shall never ever thirst again. The fountain of life, oh, is flowing everywhere. Whosoever drink or shall never ever thirst again. The fountain of life is flowing everywhere. Whosoever drink shall never ever thirst again. The river of life is flowing everywhere. Whosoever drinks shall never ever thirst again. The fountain of life is flowing everywhere. Whosoever drink or shall never ever thirst again. The fountain of life is flowing everywhere. Whosoever drink shall never ever thirst again.
L'autre Laurent, nous avons compris ce que c'est que la fontaine de vie, ce que symbolise la fontaine de vie. Et tu nous as aussi expliqué d'où cela vient, sa provenance. Mmh. Maintenant, je cherche à comprendre cette partie de la chanson qui dit « Quiconque en boit n'aura plus jamais soif. Mmh. » Maintenant, qui est ce quiconque dont il parle?
Okay.
Ce quiconque là, c'est qui?
Très bien. Et là, le quiconque dont il est question ici, c'est toute personne issu de la race humaine.
L'homme de la rue?
Oui, n'importe qui.
Le fou?
Oui.
Je ne sais pas quoi, le cambrioleur?
Oui.
Quiconque?
Oui. La condition là-bas, c'est d'être né de la chair.
Né de la chair, hein?
Oui, toute personne qui est venue dans ce monde.
Ah, d'accord.
L'évangile n'est pas destiné aux cadavres.
Ok.
Tu ne peux pas aller prêcher au cimetière pour que les cadavres la sortent pour naître de nouveau. C'est fini. Ils ont eu leur chance ici-bas. S'ils ont gaspillé, c'est fini. Okay. Tu ne prêcheras pas l'évangile à un animal. C'est parce que Christ n'est pas venu mourir pour
les animaux.
Les animaux.
Okay.
C'est pour la race humaine. D'accord? Je vais lire dans Hébreux chapitre 2, verset 14. Il est dit ainsi. Donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire ils ont un corps physique, il y a également participé lui-même. Jésus a participé, il a pris un corps physique, normal, naturel. C'est pour cela qu'il est à la fois Dieu et homme. 100% homme, 100% Dieu. C'est le mystère de l'incarnation, ça. D'accord? Donc, 100% homme, dans les évangiles, vous verrez qu'il y a des moments où il est fatigué. Parce que c'est un être humain. C'est l'élément humain, ça. D'accord? Il y a des moments où il a soif. Il y a des moments où il a faim. Vous le verrez dans la barque en train de dormir. Parce qu'il avait rendu ministère de l'autre côté du fleuve. Il était fatigué. D'accord? Donc là, le texte est en train de dire que Jésus a participé à notre commune humanité. Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Si tu parcours la terre, tu vas dans n'importe quelle partie de la société humaine, les gens ont toujours peur de la mort. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle plus les gens accèdent à des postes de responsabilité, ils veulent être immortels. Quand bien même ils savent qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, ils ne veulent pas mourir. C'est pour cela que les gens font des alliances pour ne pas mourir. D'accord? Ils ont peur de la mort. Mais Christ est venu. Il a vaincu celui qui a la puissance de la mort afin de nous affranchir. Et c'est la raison pour laquelle quand il s'est révélé à Jean sur l'île de Patmos, il dit, je tiens entre mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Dès ce moment-là, Christ étant venu, je t'ai dit, il est devenu un esprit vivifiant. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile du royaume. Donc quand on prêche l'évangile du royaume, quand quelqu'un naît de nouveau, il y a un transfert qui s'opère en lui. La vie Zoé, la vie de Dieu pénètre dans cette personne. la personne acquiert l'immortalité tout en étant mortel physiquement. La personne a déjà la vie éternelle. C'est un être immortel. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ qui nous permet d'accéder à l'immortalité. Donc, ce n'est sûrement pas des anges qu'il vient en aide, mais à la postérité d'Abraham. A dit, quiconque croit. Voilà pourquoi le sacrifice de Christ ne pourra pas accorder au diable et à ses cliques la repentance. Ils ne vont jamais se repentir. Ils ne pourront plus. Eux, ils savent. Ils sont voués à la damnation éternelle. D'accord? Donc, le texte est clair. En conséquence, Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Donc, d'un point de vue humain, il est semblable à nous. 100%. D'accord? Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc il nous comprend. Quand nous sommes tentés, il sait. Puis il a vécu dans ce corps-là. Il sait ce que c'est que la tentation. Donc il use maintenant de miséricorde parce que lui aussi a été tenté. La différence, c'est que lui, il n'a pas péché. Il n'a pas succombé à la tentation. Donc il peut nous venir en aide. Donc quiconque dont il est question ici, c'est tout individu, tout individu. Il y a des gens qui veulent nous faire croire que non, il y a certaines personnes qui peuvent être sauvées, d'autres pas. Non. Jésus est venu, il est mort pour la race humaine. De la même façon que Adam, à travers sa désobéissance, a plongé l'humanité dans la désobéissance, dans la rébellion, Jésus est venu maintenant et il veut secourir l'humanité tout entière. Mais il donne à chacun l'opportunité individuellement de se repentir pour obtenir cette vie, pour obtenir l'esprit qu'il met à la disposition des uns et des autres.
No. Nous revenons dans ce studio pour entamer la dernière phase de cette émission. Quiconque a été expliqué tout à l'heure, quiconque par l'explication qui nous a été donnée par Laurent, c'est réservé à tout homme.
Tout être humain
venu sur cette terre. Et maintenant, il continue par dire, quiconque en boit n'aura plus jamais soif. Là vient ma question. Comment peut-on boire de nos jours à cette fontaine de vie?
Très bien. Nous sommes toujours dans l'utilisation de la métaphore de l'eau.
Oui.
Et là, j'ai expliqué déjà que l'eau est indispensable.
Oui.
Hein? L'eau est indispensable pour notre survie d'un point de vue physique. De la même façon, l'esprit est indispensable pour notre vie.
L'esprit de Dieu
est indispensable.
Oui.
Tu vois, quand par exemple les puisatiers viennent creuser un puits, vous demandez qu'on vous fasse un puits. Si on creuse le puits, il y a plusieurs niveaux, hein, avant qu'il n'atteigne la nappe phréatique et tout le reste là. Jusqu'à un moment où on sait que maintenant l'eau là est, et on peut boire, n'est-ce pas?
Oui.
Maintenant, si on vous creuse le puits et que vous refusez de l'utiliser, après un temps, il y aura une pellicule qui va venir à la surface de l'eau. Et pas fini, l'eau là ne sera plus une eau potable. Parce que l'eau, le puits a été creusé pour que l'eau soit utilisée. Plus vous l'utilisez, plus l'eau est là. Mais si vous refusez, ça va s'infecter. Ce que l'on donne fleurit. Ce que l'on retient pourrit. D'accord? Donc, cette eau, nous l'avons expliqué, l'esprit que nous recevons, nous avons la responsabilité d'entretenir une communion avec le Saint-Esprit. On peut se demander, mais qu'est-ce qui fait que l'Esprit n'agit pas dans la vie des gens qui l'ont reçu? Mais quand il y a un péché dans votre vie, vous refusez de confesser. Parce que quand le Saint-Esprit est réellement actif en vous, si vous faites ce qui n'honore pas Dieu, il va troubler votre conscience pour vous amener à la repentance. De la même façon qu'il est écrit, quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit, quand il entre dans la vie d'un croyant, quand nous posons un acte qui n'honore pas Dieu, l'Esprit va troubler notre conscience pour nous amener à la repentance. Maintenant, si nous refusons de nous repentir, à force de faire ça, nous attristons l'Esprit et à un moment donné, il va nous laisser. D'accord? Quand nous posons des actes de méchanceté, lorsque nous nous endurcissons, quand vous voyez quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit, mais il est méchant. Vous savez, dans le truc du leadership là, les gens parviennent à un point où ils posent des actes de méchanceté au nom de Dieu. Ils font du mal aux enfants de Dieu au nom de Dieu. Et parfois tu te dis, mais attends là, normalement c'est un homme de Dieu, non? On doit voir Christ en lui, non? Les gens ont vu à Antioche Jésus dans la vie des disciples. Maintenant c'est un leader. Mais il est méchant. Mais là, ça veut dire que ça fait longtemps que ce monsieur-là, il n'a plus de contact avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'apôtre Paul vous dira que il fait un exercice personnel. Il veille à avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Parce que c'est comme ça qu'on marche avec le Saint-Esprit. Tu fais ce qui ne plaît pas à l'Esprit, il va te réprimer. Si tu te repens, il te pardonne. Et là, tu continues ta marche. Mais si tu refuses, vous allez rester sur ce point-là. Ça peut faire des années, il ne bougera pas. Parce que tu ne peux pas t'imposer à l'Esprit de Dieu. Donc, il y a des gens qui font ces choses et tu es étonné. Et on ne voit pas le fruit de l'Esprit dans leur vie, mais on voit les œuvres de la chair, la méchanceté, la dureté. Certains, même quand tu les vois, disent, il est de quel pays? Mais c'est un chrétien. Mais quand tu vois les traits caractéristiques de son pays, il est de quelle ethnie? Tu vois les traits caractéristiques. Si c'est la ruse là, tu vas voir ça. C'est pas des chrétiens ça. Parce qu'il faut que Christ soit manifeste en nous. Pour que ceux qui nous ont connus avant là puissent dire, on connaissait ce monsieur. On connaissait cette femme là. Mais maintenant on voit le contraire. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On dit, ah, Jésus a transformé sa vie. Donc, tu vois, cette eau là, on la boit à la repentance. Et quand on l'a bu, quand l'Esprit vient résider en nous maintenant, nous entretenons une relation personnelle avec l'Esprit de Dieu. Dans Actes chapitre 20, verset 20, l'apôtre Paul dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu. C'est ça l'évangile du royaume. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Pas la foi en Marie, sa mère. Non. Marie n'entre pas dans le sujet ici. En ce qui concerne la rédemption, Marie a été une servante par qui le Christ est venu dans ce monde. Son ministère s'arrête là. Elle a mis au monde le Messie. Point. Marie avait besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand Jésus a dit aux disciples d'attendre à Jérusalem de recevoir le baptême de l'Esprit, Marie n'a pas dit non, vous savez, le Saint-Esprit dont on parle là, moi je l'ai expérimenté avant vous. Hein, parce que voilà quand l'ange est venu me dire, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Oui, j'ai expérimenté, j'ai ce que c'est. Marie n'a pas dit ça. Parmi les disciples là, dans la chambre haute, Marie était là. Parce qu'elle savait que le salut est une affaire personnelle. Donc, ici, c'est la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Pas à la foi à un serviteur de Dieu. Pas à la foi à un fondateur d'église. Pas à la foi à un fondateur de religion. Non, c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. On laisse Christ de côté, on focalise notre attention sur un être humain. Voilà pourquoi vous avez un peu partout des membres, des dénominations, mais pas des disciples de Christ, pas des gens qui sont convertis, transformés par l'Esprit de Dieu. Donc, là, l'apôtre Paul a prêché ça. Et dans Actes 26, Christ va lui parler. Il dit quoi? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, c'est-à-dire ceux à qui tu prêches l'évangile du royaume, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. Voilà pourquoi tout à l'heure il a dit, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Par la foi en moi, ils reçoivent quoi? Le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. L'héritage c'est quoi? C'est l'Esprit de Christ. L'héritage avec les sanctifiés. 1 Jean chapitre 4 verset 10, il est dit, et cet amour consiste non point en ce que nous ayons, que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire de nos péchés. Donc, je dois croire que Christ est mort pour mes péchés. Je me répands de mes péchés et j'accepte ce Christ-là en moi. Comme il est devenu un esprit vivifiant, il vient, il rentre en moi. Et il vit sa vie maintenant en moi. Et c'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Il va porter maintenant le fruit de sa vie au travers de moi. Et donc c'est ce que Christ donne à quiconque écoute le message de l'évangile et se répand. Maintenant quand on prêche l'évangile du royaume, si celui à qui on prêche l'évangile du royaume est possédé, là en ce moment l'esprit est activé, on chasse les démons. Si la personne a besoin de guérison, l'esprit est activé, la guérison est obtenue. Donc la personne obtient gracieusement ce que l'esprit apporte pour que le Christ soit effectivement intronisé dans sa vie. Tu vois un peu, donc rien ne vient du disciple. C'est pas le disciple qui guérit, qui délivre, qui vous voyez un peu. C'est que je veux que nous revenons à ce que l'évangile a dit. C'est Christ par son esprit qui fait l'œuvre au travers des disciples. De la même façon que Jésus lui-même, c'était le Père qui agissait au travers de lui, par la puissance du Saint-Esprit. Si nous avons compris cela et que vous avez reçu Jésus, il vit en vous. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Et quand vous communiez avec le Saint-Esprit, Jésus devient réel pour vous. Vous savez que ce n'est pas juste une histoire qu'on a racontée, mais c'est une personne réelle. Et quand vous faites ces expériences-là, vous ne voudrez pas que quoi que ce soit vienne vous amener à pécher contre Dieu.
Merci l'autre Laurent, merci l'autre Laurent, merci également à vous qui nous avez suivis ici à Lomé ou ailleurs, que Dieu vous bénisse. Notre lanterne a été vraiment éclairée, nous avons étudié la chanson « La fontaine de vie » de Voice of the Cross. Nous vous laissons avec le chant et si le Seigneur tarde à revenir, on va se retrouver la semaine prochaine, même heure, pour un autre cantique ou un chant à étudier. Bye bye avec « La fontaine de vie, de Fountain of Life, de Voice of Cross, avec le frère Lazare, ou Lazarus, brother Lazarus en anglais.
Shall never ever thirst again.